Bon, je vais essayer de raccrocher donc sur la question qui a été posée, mais finalement, à quoi servent donc les parents? En vous proposant un petit commentaire de réflexion sur la pratique de la psychanalyse à partir de ce que nous apporte cette pouponnière de l'Oxy. Alors, j'ai finalement trouvé le titre de ce que je voulais dire aujourd'hui. C'est la communication avec un nourrisson, une mise en scène du dialogue avec l'inconscient. Finalement, cette pouponnière de l'Oxy nous offre une situation expérimentale qui met l'accent, si on peut dire en creux, sur la valeur constructive de la reconnaissance de cette réalité, à savoir que les parents sont irremplaçables. Et ça nous donne aussi une occasion formidable de repérer ce qui, dans le maternage, appartient aux parents et ce qui appartient au bébé. Alors, en reprenant à ma manière le titre du livre, qui pour moi est le livre principe de Serge Lebovici, « Le nourrisson, la mère et le psychanalyste », je vais essayer de montrer ce qu'ont en commun la nurse, qu'on a vue s'occuper des bébés de l'Oxy, le nourrisson, les parents et le psychanalyste. Alors, cette nurse, comme il a été dit tout à l'heure, elle ressemble à un psychanalyste. Elle garantit un cadre régulier pour les rencontres, ce qui permet de construire la confiance dans l'avenir et le sentiment de sécurité. Elle respecte l'initiative du bébé et elle se laisse guider par lui. Elle ne répond pas aux tentatives de séduction du bébé et elle ne cherche pas non plus à le séduire. Au contraire, elle réfère tous les comportements du bébé à son intention de grandir et de conduire lui-même sa vie. Finalement, moi, ce que je retrouve là, c'est quelque chose que Jung expliquait comme caractérisant l'attitude du conscient qui permet d'établir un dialogue avec l'inconscient. Il proposait donc trois verbes que je vais dire en allemand et que je vais essayer de traduire en français. Le premier verbe, c'est « geschehen lassen », c'est-à-dire que ça veut dire « laisser advenir »,« laisser arriver », »,« permettre que ça arrive ». Un autre verbe qui se dit « betrachten », qu'on peut traduire par « considérer », mais qui en même temps a un de ses sens en allemand qui signifie « engrosser ». Et le troisième verbe qui est « sich auseinandersetzen », qui peut se traduire par « se confronter avec » ou « prendre position ». Il me semble que si on regarde bien ce que fait la nurse, elle respecte exactement ces trois, la séquence de ces trois verbes les uns après les autres. Alors, on peut dire que la situation psychanalytique propose un cadre assez proche finalement de rencontres régulières. Les séances correspondant aux séquences de soins proposées au bébé, où la préoccupation du psychanalyste est précisément de laisser vacante la position, la place des parents. C'est-à-dire que le psychanalyste n'est pas là pour faire à la place des parents ce qu'ils auraient éventuellement mal fait. Il est là pour permettre que le patient se confronte avec ce qu'il a vécu dans son enfance. Donc ce cadre permet l'auto-organisation du bébé par ses propres gestes qui, si on peut dire, représentent ses pensées en attendant qu'il soit capable de parler. Alors regardons maintenant du côté du bébé. Laisser advenir. Est-ce que le bébé peut faire autre chose que laisser advenir? Il arrive et la plupart du temps, s'il n'a pas été trop bouleversé pendant la grossesse et au moment de la naissance, il est dans une attitude d'ouverture qui va faire, qui va laisser advenir ce qui advient. Considérer. Je crois que tout le monde s'est rendu compte à quel point le regard des nouveau-nés est impressionnant. Et il me semble que c'est une bonne image de ce que c'est que considérer. La manière dont le nouveau-né nous regarde lorsqu'il ouvre les yeux, je trouve que ça nous dit bien ce que c'est considérer. Bon, en même temps qu'il ne considère pas seulement avec ses yeux, mais il considère avec l'ensemble de son corps, puisque, enfin, c'est un moment beaucoup beaucoup contribué à ce qu'on comprenne ça, le bébé reçoit avec tout son corps et tous les canaux sensoriels, et particulièrement des canaux plus... On finit par oublier, nous les adultes qui regardons, entendons et parlons constamment, les sensations corporelles, tout ce qui est proprioception, sont probablement essentielles pour le bébé. Enfin, se confronter, prendre position. Si le bébé est accueilli dans un contexte respectueux, ce qui est malgré tout pour rendre aux parents ce qui leur est habituellement dû, les bébés sont correctement accueillis. Hein. C'est-à-dire qu'habituellement, lorsqu'un bébé arrive dans les bras de ses parents, les parents accueillent, hein, sont surpris et reçoivent le bébé avant d'agir. Hein. C'est-à-dire que quand les parents sont en bonne santé, s'ils ont été convenablement entourés autour de la naissance, ils sont dans cet état d'être capables de considérer le bébé et de laisser venir ce qui leur vient de l'intérieur pour répondre au bébé. Et donc notre petit bébé, lui, puisqu'on lui laisse le temps de le faire, il agit sa réponse. C'est-à-dire qu'il parvient à constituer un geste, les bandes qu'on a vues montrent bien ce qu'un tout petit bébé est capable de faire au niveau d'organiser un geste qui va lui permettre de nous dire plusieurs choses, c'est-à-dire à la fois ce que pour lui il est advenu, aussi quel effet ça a fait pour lui de considérer ça, et finalement qu'est-ce qu'il en veut, hein, c'est-à-dire que le geste qu'il va produire fait référence à la fois à ce qui vient de se passer pour lui et à comment il a envie que les choses continuent. Et habituellement, cette séquence-là est immédiatement suivie d'une séquence identique par l'adulte qui s'occupe du bébé, qui lui aussi donc, aura été attentif, aura considéré et va essayer de construire une réponse qui est bien souvent une réponse par geste, hein, c'est-à-dire la réponse par la parole, et souvent plus un accompagnement du geste. Hein, moi je n'entends pas le roi, mais ce que j'ai compris de ce qui se dit, c'est que c'est beaucoup une mélodie qui décrit ce que la nurse va faire. Hein. C'est-à-dire que pendant qu'elle fait son soin, elle dit au bébé qu'elle va lui prendre la main, qu'elle va lui mettre son petit machin, qu'elle va lui faire ci ou ça. Bon, le bébé a l'habitude au bout d'un moment, parce que c'est toujours la même succession de gestes, mais il n'empêche qu'elle dit dans ses paroles ce qu'elle va faire. Alors, les parents, je disais qu'ils étaient préparés à répondre sur le même mode que le bébé s'engage dans la communication. En fait, les bébés n'arrivent pas sur un terrain complètement vierge. C'est-à-dire que le bébé, il a été attendu. Il a été attendu quasiment depuis la naissance de chacun de ses parents, puisque le désir d'enfant naît quasiment avec le développement. Donc tout au long de l'enfance, le bébé que les parents vont faire est préparé mentalement, et cette préparation se fait par les jeux, hein, puisque les enfants jouent, alors suivant qu'ils sont garçons ou filles, soit maintenant d'ailleurs avec des jeux de part et d'autre, soit avec des poupées, soit avec des petites voitures, soit avec d'autres choses. Mais les enfants jouent pour construire leur confrontation aux bébés qui sont autour d'eux et à l'émotion que ça suscite d'être confronté à un petit bébé. Et on peut dire que de cette manière-là, il y a une élaboration d'une figure, du désir d'enfant qui est très particulière à chaque personne. Et puis finalement ça se concrétise, une femme est enceinte, et donc pendant cette grossesse, les deux parents se préparent à accueillir le bébé. Alors évidemment la mère de façon un peu différente du conjoint, puisque elle se prépare avec un vécu corporel qui est certainement très différent. Mais les deux sont dans cette... fonctionnement mental qui va petit à petit les préparer à l'accueil de ce bébé. Et les jeux que ces jeunes parents faisaient quand ils étaient petits sont là remplacés par une rêverie. Hein. C'est-à-dire que il me semble que c'est le même mécanisme mental qui fonctionne que chez les enfants qui jouent. Chez les adultes, c'est une espèce de rêverie qui va amener dans une semi-conscience à exercer ces qualités dont on parlait tout à l'heure, à savoir laisser advenir, considérer et se confronter avec. Puisque, Milovski raconte ça tout à fait bien, sur la particulièrement étudiée chez les femmes enceintes, la première moitié de la grossesse est occupée à refabriquer la mère comme bébé de ses parents, la mère comme enfant ayant envie d'avoir un bébé avec sa propre mère, avec son propre père, et tout ça produit une réélaboration extrêmement importante du fonctionnement mental qui va fabriquer les compétences parentales. Alors on parle de, je tiens beaucoup à dire parentale parce que je pense que même si on n'a pas beaucoup étudié, il y a des mécanismes assez symétriques qui fonctionnent sur le plan mental chez les pères des bébés. Et il me semble que cette rêverie est le terreau qui permet d'exercer ces qualités qui vont permettre de faire face à l'intensité émotionnelle qui saisit les deux parents à la naissance. Alors, d'où vient cette intensité émotionnelle? Pour moi, elle est l'effet du transfert. Comme j'essayais de le dire, il me semble que il y a d'abord un transfert des parents sur le fœtus puis sur l'enfant, c'est ce que je viens d'essayer d'expliquer un peu. Et ce transfert, il me semble, a deux pôles. Un pôle constructif, puisqu'il permet d'activer les compétences des parents, et c'est en ceci que les parents servent absolument à quelque chose. Mais par contre, lorsqu'il est trop violent et trop intense, il peut sidérer leur capacité à être parents. Et d'autre part, au moment où le bébé vient au monde, il agit sur ses parents, je dirais, à la manière d'un psychanalyste. Tout le monde sait que les bébés ne parlent pas, mais s'ils font comme on dit, c'est-à-dire de laisser advenir, de considérer, et puis de proposer des gestes qui sont des gestes interprétatifs, ils travaillent exactement comme des psychanalystes. Donc les parents transfèrent sur le fœtus puis sur le bébé, et le bébé, eh bien, il me semble qu'il transfère aussi sur ses parents. Alors là, la théorie qui me semble la plus proche pour comprendre ça, c'est la théorie de Bion. Bion, il explique, enfin du moins dans sa manière qui est un peu abstraite de dire, il dit que le bébé, il vit des espèces de choses qu'il appelle les éléments bêta, et que ces choses, il les projette sur sa mère, laquelle les digère, les arrange, les réélabore, grâce à sa capacité à la rêverie, après quoi donc le bébé peut réintrojecter les mêmes éléments qui sont devenus des éléments alpha, qui sont des choses avec lesquelles il peut se constituer. Et il me semble que cette manière de dire est une autre façon de parler de la conception du transfert selon Jung, puisque Jung a une conception du transfert qui est tout à fait dans la symétrie. Se disant que dans une rencontre, les deux sont affectés. Il n'est pas possible que le psychanalyste ne soit pas affecté par son patient. Alors il y a aussi un autre élément du bébé, c'est que ce bébé, il naît au bout de 9 mois de vie intra-utérine, que pendant ces 9 mois de vie intra-utérine, il vit probablement plein de choses dont nous ne sommes pas au courant. Enfin, grâce au progrès de l'échographie, on a de plus en plus d'éléments pour penser qu'il vit des choses importantes. Et puis des choses importantes de la vie émotionnelle de sa mère, aussi des rencontres amoureuses entre sa mère et son père. Il entend ce dont il est question. Donc tout ça laisse probablement des traces, on ne sait pas trop comment. Et puis l'accouchement est aussi une expérience, si j'ai bien compris, assez vive, et qui doit certainement lui laisser des traces. Donc pourquoi pas penser que dans les premiers gestes qu'il fait en venant au monde, cet enfant nous raconte quelque chose de ce qu'il a vécu précédemment, et donc la trace de ses parents, la trace de son histoire, il la porte avec lui déjà dans ce vécu. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ce petit bébé tout dispersé, là, cette petite triplette qui au début du soin est vraiment très perdu dans l'extérieur, hein, c'est, on peut aussi imaginer, en tout cas moi je le fais, que ce qu'elle raconte dans cette façon d'être dispersée, c'est un vécu extrêmement primitif de ce qui s'est passé pour elle dans cette vie intra-utérine et puis au moment de la naissance et puis dans son séjour à l'hôpital. Alors, j'aurais envie de dire que les interactions parents-nourrissons témoignent d'un transfert partagé qui est polarisé par la différence des générations. C'est-à-dire qu'il y a une partie de fonctionnement symétrique, comme je l'ai décrit, hein, de projection-introjection réciproque, et puis il y a une partie dissymétrique. Parce que, d'une part, les parents et les adultes sont des gens qui ont vécu l'expérience d'être bébé, et qui donc, à partir de là, ont construit des représentations qui leur permettent d'avoir une sorte de grille de décodage qui, de ce que peut vivre un bébé et de ce que peuvent vivre les parents. Hein, ça, c'est le système qui m'a appris cette chose-là, qu'en même temps que le bébé reçoit les soins maternels, il est quasi à deux endroits à la fois. C'est-à-dire qu'il est à sa place à lui, c'est-à-dire qu'il vit son expérience de bébé, et en même temps, il intègre vue de la place de sa mère. C'est-à-dire que dans la même expérience, il apprend à être bébé et à être parent, ce qui est quand même assez remarquable. La deuxième dissymétrie, c'est aussi, enfin c'est quelque chose qui me fait réfléchir beaucoup. Il me semble que c'est un fait de culture, en fait. C'est-à-dire que cette différence des générations, ça porte pour nous, culturellement, le respect de l'enfant. Et le respect de l'enfant, c'est que dans une certaine mesure, l'enfant ne doit pas être trop utilisé pour la satisfaction personnelle des adultes, qu'il s'agisse de leur satisfaction pulsionnelle, érotique, agressive, ou, puisqu'évidemment l'enfant est plus faible que l'adulte, hein, l'enfant est à la merci de l'adulte, ni trop non plus pour sa satisfaction narcissique. Alors évidemment un peu, mais pas trop. C'est-à-dire quelque chose qui doit rester tempéré. Alors je voulais vous proposer un petit exemple clinique d'un bébé qui a été élevé par ses parents dans une situation un peu périlleuse au démarrage, avec des parents très fragiles sur le plan psychique. C'est une petite Julie dont j'ai déjà parlé une ou deux fois. Et je voudrais, au travers de cet exemple, regarder comment s'intriquent les effets du transfert et la qualité du maternage pour Julie avec ses parents. Donc Julie, c'est un petit bébé qui est né avec son premier bébé d'un couple plutôt jeune, c'est-à-dire les parents avaient moins de 25 ans au moment de la naissance. Et elle est née avec quelques semaines d'avance. Pour donner une petite idée du milieu, le papa a grandi dans un quartier, comment dire, un peu sensible de la ville, avec un milieu comme ça un petit peu difficile et où le hashish fait partie de la vie de manière indispensable. Quant à la mère, elle est issue d'une famille assez compliquée, elle avait deux parents enseignants, mais avec une pathologie dépressive grave, un père avec une psychose maniaco-dépressive et une mère qui n'était pas très facile non plus, donc un père qui a été plusieurs fois hospitalisé pendant l'enfance de cette jeune femme. Bon, il se trouve que l'accouchement s'est assez bien passé, mais très vite, la mère a plongé dans un état dépressif grave au point qu'il a fallu essayer de trouver un système pour l'hospitaliser. Pendant le premier mois, ça a été assez compliqué. On a fait en sorte que le bébé ne se retrouve pas seul avec sa mère, même si l'hospitalisation était un peu bizarre, parce qu'il n'y a pas de structure comme ça à Grenoble. On a obtenu un soutien suffisant pour que la mère ne reste jamais seule avec son bébé. Alors, ils sont venus me voir assez vite, et là je voudrais vous proposer, donc un peu la manière des films, je vais essayer de faire aussi bien, c'est pas évident, hein, le film dit tout à fait autre chose, de vous aider à voir cette petite fille, elle avait donc au moment de la séquence en question, 6 semaines, un petit bébé qui arrive dans le landau, et puis les deux parents s'installent dans le cabinet avec l'idée que c'est le moment qu'elle mange. Moi, je suis assise dans mon fauteuil, il s'installe, et la mère se met au service du père qui va donner le biberon au bébé. Donc elle est extrêmement silencieuse, elle prend le bébé du landau, le met dans les bras du père qui est bien installé, vérifie qu'il est bien installé, elle va chercher le biberon, vérifie qu'il est à la bonne température, aide le père à mettre la petite serviette, et elle donne le biberon au père, puis elle s'assied un peu à distance, ça fait un mètre cinquante, pas plus. Et puis elle regarde, elle considère ce qui se passe. Alors le père regarde la petite fille, il regarde le biberon, et puis il s'apprête à mettre une tétine dans la bouche du bébé, et à ce moment-là, elle fait des areux, elle a 6 semaines, hein. Elle lui fait des grands areux, des sourires, elle le regarde au point que il en oublie qu'il a le biberon à la main, il lui répond, et il est très, très ému par elle, et puis il se souvient qu'il a le biberon, donc il lui repropose, il attend, c'est ça qui est extraordinaire, il attend qu'elle ouvre la bouche. Et elle ouvre la bouche, et elle commence à téter, elle tète 2-3 fois, et puis elle s'arrête, elle laisse la tétine bouger de sa bouche, et elle recommence à faire des petits areux, et le père est complètement ému, il lui répond, il lui fait des sourires et tout. Et bon, finalement, elle reprend sa tétine et elle se décide à manger. Et à ce moment-là, cet homme me regarde, l'air complètement épanoui. Enfin, c'était une expérience merveilleuse pour lui. Et moi, j'étais un peu suffisamment en retrait pour voir qu'à ce moment-là, il y avait des larmes qui coulaient sur le visage de la maman qui regardait cette chose merveilleuse. Un bébé en train de boire le biberon dans les bras de son père. C'est vrai que quand j'ai émis l'idée que peut-être cette scène était un petit peu douloureuse pour la maman, elle a pleuré avec beaucoup d'intensité, et qu'il était clair que dans cette expérience-là, ce qui était en train de se vivre, c'était pour les deux parents quelque chose d'une réparation du lien au père, d'un lien vivant, animé, chargé d'amour, que les deux parents n'avaient pas vécu dans leur histoire. Hein, parce que le grand-père paternel était parti assez rapidement après la conception de son fils. Donc cet homme avait été élevé par sa mère, plus les frères et sœurs d'un autre du mariage précédent. Donc c'est vrai que pour cet homme, c'était une expérience complètement constructive. Et la femme se mettait dans une situation extrêmement bizarre, comme si elle était la grand-mère. Hein. C'est-à-dire, elle s'effaçait complètement au profit de son mari pour sans doute faire vivre par procuration à sa fille quelque chose de son envie de partager une telle intensité avec son propre père, qui n'avait pas été possible parce que le père était beaucoup trop déprimé pour pouvoir faire ça. Alors, revenons à notre petit bébé, cette petite Julie, qu'est-ce qu'elle a fait, elle, pendant ce temps-là? Il me semble qu'on voit vraiment fonctionner cette espèce de dimension constructive de l'amour respectueux dont elle est l'objet. Ce que je trouve très remarquable, c'est que attendre que le bébé ouvre la bouche pour lui mettre le biberon, je ne sais pas si vous avez déjà observé des tétés, mais c'est en France assez rare. Et ça, c'est vraiment très remarquable d'avoir un homme qui fait ça quasi naturellement, c'est-à-dire qu'il ne va pas lui rentrer de force la tétine dans la bouche. Et ça, c'est quelque chose qui est caractéristique à l'OBSI où il y a très peu de troubles d'alimentation. La nurse attend toujours que le bébé ait ouvert la bouche pour lui proposer quelque chose à mesure. Donc je dis amour respectueux, là c'est très clair qu'il y a un transfert massif des deux parents sur ce bébé. Mais le respect, il est là. Et le bébé peut être actif. Et il me semble que c'est ça qui est constructif. Alors, la séquence suivante, c'est une semaine après. Donc, le père travaille. Et la mère vient me voir seule avec son bébé. Et donc, là, de même, elle était dans le landau. Elle pleure. Donc, la mère prend le bébé et la pose sur ses genoux. Alors, il faut dire quand même que précédemment, cette femme n'avait jamais pu croiser le regard de sa fille. C'est-à-dire qu'elle était dans un tel état de tristesse et de conviction qu'elle était bonne à rien, qu'elle ne pouvait absolument pas regarder sa fille dans les yeux. Et que c'est venu tout à fait lentement, et que là, cette fois-là, elle prend le bébé et elle la pose sur ses genoux, vous savez comment on fait, avec le visage, son visage à elle, au-dessus du visage du bébé. et elle la considère, enfin du moins, on pourrait imaginer que c'est ça qui va se passer, mais c'est pas du tout ça qui se passe. C'est-à-dire qu'elle plante ses yeux dans les yeux de sa fille, et il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que manifestement, elle est ailleurs, dans une autre chose extrêmement violente pour elle, elle se met à pleurer. Et ça fait comme suspendu. C'est-à-dire que moi je me dis que je ne suis pas bien, elle est manifestement pas bien, et quant à la petite fille, alors je la regarde évidemment, et qu'est-ce qu'elle fait cette petite fille? Elle est sidérée, elle ne bouge pas du tout. C'est comme si elle se mettait dans la même attitude corporelle que sa mère. Alors là, c'est assez impressionnant de voir le mimétisme corporel du bébé qui est dans la même hypertonie vigilante comme ça que sa mère. Et les deux sont dans cette espèce d'état sidéré de ce... plus les larmes chez la mère. Donc j'interviens pas trop pendant un petit moment. Enfin, je me retiens d'intervenir en me disant qu'il va peut-être bien se passer quelque chose. Et puis les larmes coulent. Et finalement, la mère se met à dire qu'elle n'y arrivera pas, qu'elle est incapable. Et donc, j'accueille un peu ça. Et puis finalement, je lui dis quelque chose qui est assez amusant par rapport à ce qu'on a vu de l'Oxy. Je cherche ce que je pourrais lui dire, évidemment. Et ce que je trouve à lui dire, c'est, vous savez, c'est pas bien grave si vous pleurez. Par contre, ce qui est important, c'est que vous lui disiez ce que vous allez faire, c'est-à-dire lorsque vous la prenez, quand vous l'amenez ici ou là, que vous allez la prendre pour lui donner à boire, ou pour la changer, ou quelque chose comme ça, c'est bien de lui dire ce que vous allez faire. Et à ce moment-là, elle se reconnecte, la dame, elle me regarde moi droit dans les yeux, et elle regarde son bébé, et elle me dit, ah mais on ne m'avait pas prévenu moi, on ne m'avait pas prévenu que ça allait se passer comme ça. C'est-à-dire qu'elle commence à se plaindre du fait que pendant la grossesse, elle n'avait pas une seule fois imaginé combien ce serait terrible, cette confrontation à ce bébé. Alors c'était une grossesse euphorique. Elle avait passé, pour elle, c'était merveilleux ce moment où elle attendait ce bébé. Bébé qu'elle avait conçu de manière un peu... bon, j'aime bien, c'est caractériel par rapport à sa famille, vu qu'elle a arrêté ses études d'enseignante pour faire un bébé. Évidemment, les deux parents qui étaient enseignants étaient assez fâchés de cette initiative. Donc au fond, qu'est-ce qu'elle vit, cette petite Julie, dans cette expérience-là? Il m'a semblé qu'elle devenait, comme sa mère, un espèce de contenant inanimé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que cette espèce de puits sans fond du regard de la mère qu'elle essaye de prendre, enfin de saisir, de comprendre, en ayant la même attitude corporelle qu'elle, mais il n'y a plus les étapes d'après, je veux dire, du laisser advenir, du considérer, c'est sidéré, on est pris dans cette espèce de fascination. Et alors je cherchais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus rien là, et il me semble que c'est qu'il n'y a plus de référence à une autre scène qui raconterait le comment de la douleur de la mère. C'est-à-dire que, enfin, nous, psychanalystes, on dit qu'il y a une suspension de la pensée. Enfin, on dit pensée. Je ne suis pas tout à fait sûre que ce soit la pensée. C'est en tout cas de l'activité mentale, des représentations qui circulent continuellement dans la tête. Il y a des moments où ça s'arrête. Eh bien, il me semble que c'est de cette chose-là qu'il s'agit. Hein. C'est, tout d'un coup, il y a une suspension de l'histoire, il y a une suspension de l'avant, de l'après. On est pris dans une espèce d'instant... qui serait aussi bien la mort que la vie. Enfin, et en fait, dans cette scène-là, je deviens la seule à pouvoir exercer les deux autres fonctions, hein, considérer et prendre position. Et donc, je m'appuie sur un des principes loxiens, prévenez-la de ce qui va lui arriver, ce qui peut reconnecter la mère avec sa façon de penser sa propre histoire. Au fond, comme si j'étais convaincue de cette chose-là, qu'un bébé peut s'organiser face à ce qui lui vient de l'extérieur, à condition qu'il puisse participer activement à ce qui lui arrive. Donc finalement, pour résumer, et pour... c'est important qu'on puisse parler, et puis pour que la femme puisse parler aussi. Communiquer avec un nourrisson sous-entend des processus transférentiels réciproques qui conduisent à la transformation des deux partenaires. Donc les parents deviennent parents, Et le nourrisson construit ses conceptions de lui-même et du monde, pour autant qu'on lui donne les moyens d'établir un dialogue actif avec le monde. Ces moyens sont bien décrits par Jung sous la forme de ces trois verbes qui caractérisent l'attitude du conscient au décours de l'analyse. Il me semble que ce qui se transmet comme garantie d'un tel processus, c'est la compétence à se tenir dans cette attitude, c'est-à-dire une compétence du conscient. La comparaison des deux situations, à l'auxine ou avec les parents, montre à quel point c'est l'action du bébé qui est structurante pour lui. Donc à deux conditions, que l'on respecte son rythme et que l'adulte garantisse une référence à une autre scène qui est plus ou moins inaccessible. Alors je dis inaccessible plutôt qu'accessible, c'est bizarre, pourquoi j'ai eu envie de le dire comme ça. Parce que avec les parents, cette scène, elle est rendue présente par le fait qu'il y a deux parents. C'est ça qui est, je veux dire, dans la première scène où ce bébé vit des choses tellement constructives pour elle, qu'est-ce que c'est qui fait que c'est possible? C'est qu'il y a le père et la mère, et ils sont là, pour de vrai, en train de jouer, pour de vrai, quelque chose qui est important pour les deux. Et ce qui fait que chacun peut continuer à penser, c'est qu'ils sont là tous les deux en vrai. Donc dans les situations normales, c'est la présence des deux parents autour du bébé qui permet qu'il n'y ait pas cette fascination folle, hein, qui est une reprise de Disney. Alors, lorsque dans la scène où je suis avec la mère et Julie, c'est ma présence, c'est moi qui joue le rôle d'un tiers qui va permettre de reprendre du champ et de faire référence à cette situation d'un ailleurs. Alors, à l'auxie, cet ailleurs, il me semble que ça fait référence à la fois au passé et au futur. C'est-à-dire que ce bébé, il vient quelque part, et même si on ne sait pas d'où il vient, il a dans ses comportements quelque chose qui nous en parle, enfin qui en parle aux nurses et aux gens qui sont là. D'autant plus que la nurse fait attention à ne pas prendre la place des parents. C'est-à-dire, ne fait pas croire au bébé qu'elle est là, à la place. Les parents, ils ont été quelque part, ils sont ailleurs, ils sont morts, mais voilà, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire pour l'instant. Et puis l'autre scène, c'est la scène du futur, hein, ce sur quoi tu as bien insisté, c'est que ces enfants, ils sont là pour faire leur vie. Je veux dire, ils ne sont pas là pour toujours, ils sont là pour grandir. Un bébé, ça grandit et ça devient autonome, mais ça va faire quelque chose. Ils vont rencontrer des gens qui vont pouvoir investir, ils vont pouvoir fonder une famille. Et d'ailleurs, les études des anciens bébés de cette pouponnière montrent que ces enfants ont pu faire une vie de manière complètement habituelle, si on peut dire.